France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On n'a pas tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Ils seront tous les deux sur la croisette pour de vrai. Une palme d'honneur pour l'un, le patron d'une franchise pour l'autre. Jamais ensemble dans le même film et enfin réunis ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, welcome à tous.
Plus de 100 films en 60 ans de cinéma, un visage qui se substitue au 7e art, une méthode, devenir le personnage plutôt que lui ressembler. Robert De Niro à l'occasion de cette super palme d'or à Cannes, retour sur un parcours phénoménal avec vous. Bonjour Jordan Minzer.
Bonjour.
Correspondant du Hollywood Reporter. La discrétion d'un côté, l'excès de l'autre, égomaniaque, osons le terme. Tom Cruise présentera à Cannes, Mission Impossible, le dernier chapitre, The Final Reckoning, un parcours de film d'auteur au blockbuster, commenté par vous. Bonjour Pierre Charpillos.
Bonjour.
Journaliste à SoFilm et auteur, 3 films chacun seulement pour incarner ces deux figures, De Niro et Cruise, c'était presque Mission Impossible. Merci d'avoir joué le jeu. Enfin, les sorties de la semaine, des Enfants Rouges, des Arènes, un effacement et le retour de Margaret Von Trotta. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
The Bronze Bull, the Raging Bull. Let's hear for the great Jake LaMotta, ladies and gentlemen.
I'm the best. I can take him more than anybody.
You're dead. You're married. Leave the young girls for me.
There's no way I'm going down. I don't go down for nobody.
What is it with him? Why does he have to make it so hard on himself?
If you beat Trigger Ray, you'll get a shot at the title. You feel that way?
There's no one else around who wants to fight him. They're all afraid.
There's a lot of bad things, Joey. Maybe it's coming back to me.
S'il ne restait qu'un film, ce pourrait être celui-là, Raging Bull de Martin Scorsese et la performance hallucinante de Robert De Niro avec Scorsese, mais aussi Coppola, Bertolucci, Cimino, Leon, Gilliam, De Palma, Michael Mann jusqu'à Tarantino, effarante filmographie. Comment la résumer ou plutôt comment symboliser cet acteur hors norme, De Niro, vous amendez 3 films. Jordan Minzer, quels ont été vos critères d'ailleurs ?
Pour les 3 films.
Ouais.
Mais je voulais, en fait, je voulais éviter un peu le film que tout le monde connaît, comme Raging Bull.
Exactement. Où,
vous dites Raging Bull.
Pardon.
Raging Bull. Vous me comprenez quand même, rassurez-moi, Jordan.
Ça commence.
Oui, mais allez, un tac.
Raging Bull ou Taxi Driver, qui sont des grands films et c'est des grandes performances de Niro. Mais je me suis dit, ça sera l'occasion peut-être de parler de films où on parle un peu moins de Niro. C'est des films peut-être un peu moins connus pour la performance de Niro, pour que les gens puissent découvrir ces films aussi et les ajouter aux grands, grands films de De Niro.
C'est qui De Niro pour vous ?
Mais pour moi, c'est d'abord un acteur discret. C'est ça, j'ai toujours trouvé que, pas discret dans ses films, mais discret en fait dans sa façon d'aborder le métier. J'ai un peu regardé sa biographie et De Niro, c'est parce que moi j'imaginais toujours qu'il était un enfant de rue de Manhattan, un peu comme Scorsese d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, ils ont grandi presque au même endroit dans downtown Manhattan. Oui. Mais De Niro, alors que Scorsese est vraiment le fils des immigrés italiens et il a grandi dans Little Italy, dans ces mondes-là qu'on voit dans ses films. De Niro, c'est tout autre chose. Ses parents, c'était des artistes, des peintres. Et en fait,
des intellectuels.
Voilà, exactement. Et donc, il vient plus de du monde bohème de New York qui existe à côté du monde
populaire.
Italien, voilà, populaire qu'on voit dans le film de Scorsese. Et son père, surtout, c'était un peintre qui travaille toute sa vie que comme peintre, alors que sa mère était obligée de faire d'autres boulots, de petits boulots pour gagner sa vie. Et en fait, qui se concentrait beaucoup sur la technique. Et j'ai l'impression que quand on voit De Niro, on voit la technique, on voit toute la recherche.
Le travail
qu'il apporte. En anglais, on dit craft. Et c'est très important, le craft de l'acteur. Et en fait, c'est lui, c'est d'étudier le plus profondément possible chaque personnage et de rentrer dans la peau du personnage, pas forcément par la psychologie, ce qu'on peut imaginer qu'un acteur va En fait, dans la méthode classique de Actor Studio, c'est en fait, on cherche dans sa propre psychologie, la psychologie de personnage. C'est pas ce qui fait De Niro. C'est plus dans la sociologie. C'est une autre méthode, une méthode qui vient plus de Stella Adler, qui faisait partie aussi de... Voilà, exactement. C'était son grand professeur à De Niro. Et en fait, qui lui a appris, il faut faire le plus de recherches possible sur chaque personnage. Il faut vivre comme le personnage. Il faut rentrer dans la peau du personnage. Et on voit dans tout le film qu'il a fait, et surtout les grands films, qu'il passe beaucoup de temps à rechercher le rôle avant de jouer. D'ailleurs, Raging Bull, probablement son plus grand film, c'est lui qui a apporté le projet à Scorsese. Oui. C'est lui qui avait rencontré Jake Romata, le boxeur, plusieurs fois. Et là, pour ces films-là, oui, bien évidemment, il s'entraîne comme boxeur, mais surtout, il fait quelque chose qui était assez rare à l'époque. Il a vraiment physiquement s'est transformé, il a pris 25 kilos, puis qu'il a perdu pour faire le film. Aujourd'hui, on voit ça un peu comme une technique pour gagner un Oscar, mais à l'époque, quand il a fait le film De Niro, c'était très rare. On voyait jamais Cary Grant qui prenait 25 kilos pour jouer en rôle. Et c'était une façon aussi de rentrer dans le personnage, de devenir Jake O'Mara qui devient plus tard dans sa vie quelqu'un de raté. Voilà. Et donc, c'est la technique, the craft de Niro qui m'intéresse.
Et si nous commencions par la fin d'un mythe, celui du gangster, le mafieux inventé avec Scorsese, Mean Street, Les Affranchis, Casino, poursuivi avec Le Parrain, Coppola, puis Léon, Une fois en Amérique, ou Les Incorruptibles, Al Capone, de De Palma. Tarantino, lui, tord le mythe et De Niro joyeusement avec lui dans Jackie Brown. Il est Louis Garra, tueur odieux, comme sur ce parking d'un centre commercial, parce que elle le vanne sur le fait qu'il ait oublié l'emplacement de son combi. Ben, il va tuer sa copine comme ça.
Tout simplement.
You shot Melanie?
Twice.
Tu as buté Mélanie?
Deux balles. Could talk to her?
Dans le parking.
Tu pouvais pas lui causer?
Qu'est-ce
que tu veux causer? Tu pouvais pas la cogner?
Peut-être, mais j'ai pas...
Tu sais, sur le chat, sur le coin, tu lui as collé deux balles. Is she dead?
Elle est morte?
Pretty much.
What do you mean, pretty much, Louis?
Plus ou moins.
Comment ça, plus ou moins? Louis, merde, c'est pas une réponse. Elle est morte, oui ou non?
Ouais.
Tu penses que oui, mais réponds-moi. Est-ce qu'elle...
Elle est morte.
Où tu l'as touchée?
Une dans la poitrine et une dans le ventre.
You had to do it, then you had to do it.
Si tu l'as fait, je suppose qu'il fallait que tu le fasses.
What we don't want is that bitch surviving.
Ce qu'il faut surtout pas, c'est que cette connasse nous survive. N'importe qui, mais pas cette femme.
Oui, Louis, ce gangster fatigué, la moustache ridicule, au sourire renversé. En fait, il adore se parodier de Niro aussi. Il se moque de lui-même.
Oui.
C'est rare pour une star de cette envergure.
D'ailleurs, il fait dans Jackie Brown, et on va parler aussi de Vars de Pantin, qu'il fait un, c'est assez proche ces deux rôles.
Ouais.
Mais là, c'est ce qui... Jackie Brown sort en 97, et c'est à l'époque, je trouve que De Niro est devenu parfois une caricature de lui-même dans des films.
Ouais.
Surtout ces deux grands films des années 90, ou trois grands films, il y a... Les Affranchis, Casino et puis Heat.
Oui.
Et c'est un peu des personnages semblables, des gangsters très durs, qui parlent pas trop, qui sont très sûrs d'eux-mêmes, qui ont une espèce d'agression cachée, mais qui sort. Et là,
il parle beaucoup, il dit beaucoup de conneries.
Mais
aussi.
Oui, c'est ça, en fait. Déjà, il est défoncé, il fume beaucoup de marijuana dans le film. Et puis, c'est un peu un naze, en fait.
Ouais.
J'ai trouvé ça fascinant. Pour moi, je me souviens quand j'ai vu le film en salle, et je me suis dit, ah, enfin, De Niro qui fait autre chose que De Niro.
Oui.
Et je trouvais que Tarantino, il cherche souvent ça chez ses acteurs. Tarantino, en fait. Il cherche à déjouer un peu le mythe des acteurs. Et ça, je trouve que même si c'est un second rôle dans le film, ça m'a beaucoup marqué que De Niro était quand même capable encore de nous surprendre, quoi.
Il y avait une scène de sexe où qui commence et qui est marquée en carton. Trois minutes après, c'était déjà terminé.
Oui, qui est à côté du frigo avec Bridget Fonda qui le taquine.
Et après, elle dit, c'était drôle. Je vais boire une bière maintenant.
D'ailleurs, c'est ça aussi que De Niro, il a un vrai talent pour la comédie, il fait beaucoup de comédie en deuxième partie.
On signale Midnight Run, qui est un film en diamant extraordinaire.
Oui, d'ailleurs, où c'est pas du tout un rôle typique pour De Niro.
Non.
Et donc, on voit qu'il cherche ça. Et je trouve que ça, dans Jackie Brown, c'est le meilleur rôle comique qu'il a eu, en fait, dans sa vie. Parce que le Vase de Pantin, c'est pas vraiment une comédie.
Non.
Mais dans Jackie Brown, voilà, même cette scène-là, dans le parking, c'est hilarant, quoi.
Alors, des Scorsese avec De Niro, vous auriez pu en choisir pas mal dans cette liste de courses. Mean Streets, Taxi Driver, New York, New York, Raging Bull, Les Affranchis, Casino, The Irishman, Killers of the Flower Moon. Vous avez sélectionné peut-être le plus dérangeant du cinéaste. C'est la valse des pantins, King of Comedy 1983, tourné juste après Raging Bull et l'un des plus gros échecs de Scorsese au box-office. De Niro et Rupert Pupkins, losers pathétiques qui se rêvent en roi du rire, comme Jerry Langford, Jerry Lewis, dont le show explose l'audimat.
So will you please give your warmest greetings to the newest King of Comedy, Rupert Pupkin.
His name is Rupert Pupkin. He lives in a world of make-believe.
Oh, Jerry, I love this guy. Always coming up with these great lines. I love him. I love him.
Nobody can remember his name.
Mr. Pupkin.
Mr. Pupnik.
Mr. Puffer.
Rupert.
Pupkin, P-U-P-K-I-N.
But by 11:30 tonight, the whole world will know that Rupert Pupkin is the new King of Comedy. Robert De Niro. Jerry Lewis. In a Martin Scorsese picture.
Et là,
the King
c'est...
of Comedy.
Ouais. Pardon, c'est De Niro qui apporte le projet à Scorsese, il réécrit le scénario. Ils sont marqués par l'assassinat de Lennon et la tentative de John Hinckley sur Reagan.
Oui, et aussi, je pense qu'à cette époque-là, De Niro s'est devenu un grand star d'Hollywood.
Ah oui, il est harcelé par un type au téléphone.
Voilà, ouais. Il est harcelé lui-même, et ouais. En fait, il est un peu fasciné par l'harcèlement des stars.
Ouais.
Et justement, pour préparer ce film, lui, il a passé du temps avec ce qu'on appelle des autograph chasers.
C'est des chasseurs d'autographes.
Voilà, exactement. Et donc, il a fait la chasse aux autographes. Il paraît que parfois, il confrontait des stars, il disait, mais c'est De Niro. qui demande l'orthographe, pour rentrer dans la peau de Rupert Pupkin, qui est aussi bon, un peu semblable, c'est un peu pareil que dans Jackie Brown, une espèce de loser, mais je trouve que un personnage très très touchant, assez bouleversant, et c'est vrai que, comme vous avez dit, Christine, que c'est peut-être le film de Scorsese le plus dur d'une certaine manière.
Oui.
Je l'ai revu, et il y a des scènes intenables, en fait, c'est pire que Taxi Driver, parce qu'il a tellement mal dans sa peau, ce personnage, mais ça a l'air d'être quelqu'un plutôt de bien, il est pas forcément dérangé dans la même manière que Travis Bickle dans
Taxi
Driver.
Mais c'est la même philosophie, tous les deux films, c'est les mêmes obsessions.
Oui.
Le type à côté de la société, impuissant.
Oui. Outsider et tout ça, qui va et qui essaie de trouver sa place dans, comme on dit, dans le limelight en anglais. D'ailleurs, De Niro n'a pas apporté le projet à Scorsese, il avait apporté à Michael Cimino, qui était censé réaliser le film au début.
Ouais.
Et ça aurait été vraiment autre chose, je crois. Et que finalement, Cimino était toujours sur la porte de Paradis, donc Scorsese a décidé, hein, à la dernière minute, de faire le film. Mais je trouve que c'est on voit que les deux, le duo Scorsese De Niro sont capables de créer autre chose que ce qu'on avait vu d'habitude. Et je trouve que, voilà, en anglais, le titre, c'est The King of Comedy, mais
oui.
c'est pas une comédie. Le film est vraiment pas drôle. C'est incroyablement triste.
C'est sur le quart d'heure warholien aussi. C'est sur la...
Exactement,
la
célébrité. Je pense que De Niro, il a toujours été gêné par ça. D'ailleurs, c'est jamais été une célébrité qui s'affichait beaucoup. Très discret. Moi, quand j'étais étudiant à New York, je travaillais dans un restaurant. De Niro vivait au-dessus du restaurant.
Ouais.
Et il descendait parfois manger très discrètement. Il lisait le journal, il était très poli.
Ouais.
Mais on n'aurait jamais dit un grand acteur qui rentrait. On aurait dit plutôt un peintre, en fait.
On conclut ce tiercé de Niro avec ce rôle christique, celui de Mike Wronski dans Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer, 1978. Michael Cimino, le héros, le pur, le dur, qui se sacrifie pour ses amis, retournant au Vietnam, tenter de sauver Nick Christopher Walken dans cette ultime partie de roulette russe.
Dis donc qui ?
Tantôt.
Ne le fais pas.
C'est quoi que tu veux ?
C'est ça que tu veux.
I love you.
Je t'aime.
Come on, Nicky, come home.
Reviens, Nicky, repars avec moi.
Just come home. Home. Don't.
Parle-moi, Nicky.
Nick does talk.
Allez, Nicolas, parle-moi.
Ah! Wait a minute. Still to your arms.
Nicky, attends. Nicky, qu'est-ce qui t'arrive?
Remember the trees? Remember all the different ways in the trees? Remember that?
Nicky, tu te rappelles nos arbres? Tu te rappelles pas les arbres qu'il y a chez nous? Tu te rappelles?
The mountains.
Hein? Et les montagnes. Tu te souviens de ça?
Une balle, une seule.
Une balle, une seule.
Yeah.
Cette musique splendide, Voyage au bout de l'enfer des Assyries de Pennsylvanie au bourbier vietnamien, un film qui a précédé Apocalypse Now pour raconter l'horreur de cette guerre. On peut dire que c'est son rôle le plus héroïque à De Niro.
Oui, mais c'est un héros très noir, traumatisé, et que c'est ça en fait le film, c'est un film sur l'héroïsme américain. Ouais. Ce que ça fait vraiment, c'est du traumatisme à toute une communauté, parce qu'ils vont en guerre au début du film, c'est un peu de va-t-en-guerre, il veut faire la guerre de Vietnam qui a l'air un peu fou, et là ils sont et à la fin du film on voit ce que ça fait. De Niro, pour ses films aussi, se prépare énormément. Il passe beaucoup de temps avec les ouvriers dans la Pennsylvanie, voilà, la série, dans les bars, parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes dans des bars le soir. Et aussi, dans certaines scènes, surtout les scènes très connues du film, qui sont intenables, c'est les scènes de roulette russe. Ouais. Et De Niro, il voulait, pour certaines scènes, qu'il y a des vraies balles. Oui, mais pas...
C'est la méthode plus chère.
Voilà, c'est ça. On voit que ça...
Mais pas quoi?
Non, oui, mais pardon. Pas...
À blanc?
Non, c'était...
Non,
j'allais dire, il n'a pas fait comme Alec Baldwin a fait, malheureusement. Ouais. Non, c'est que... Il voulait que les balles soient présents. Les acteurs n'étaient pas en danger, mais que ça crée une vraie tension sur le plateau. Et lui, il voulait vraiment qu'on en voit qu'il prend des baffes tout le temps de la part. Il voulait vraiment, en fait, il veut toujours le plus possible pour entrer dans la réalité du personnage. Et c'est vraiment une technique qui a commencé dans les années 50. Et je pense que on peut dire que De Niro, c'est un peu l'apothéose de cette technique, c'est vraiment le plus haut niveau de cette technique. Et ça arrive dans les années 70, qui est aussi le cinéma américain qui va être complètement inspiré par cette méthode, en fait. Les grands films sont aussi des grands films des acteurs des années 70. Quoi.
De Niro, immense acteur, homme modeste, et maintenant on va vers le contraire de la modestie.
You're also a natural character.
I've been telling her that. You know, I got natural character.
T'es aussi nature, ça faut reconnaître.
Ça fait longtemps que je lui dis, sérieux, je suis de nature, je l'ai toujours dit.
Non, c'est pas ce que j'ai dit, Coco.
I said, you are a natural character. You're an incredible flame.
J'ai dit nature et non une nature. T'es vraiment un type à part.
But that's a gift.
Mais c'est un don.
These guys spend half their lives trying to invent something.
Tu sais, il y a des types qui passent leur vie à essayer d'inventer un truc pareil. Si tu débarques dans un club avec ton rêve, les gars vont s'entretuer pour t'avoir dans un jeu.
You got that.
C'est ton atout.
But I'll tell you something, kiddo.
Mais je vais te faire une confidence.
You couldn't find big time if you had a rogue man.
Tu n'arriveras jamais au top niveau si tu fais le freeman.
Pour excellence is not about excellence.
Pour atteindre l'excellence, il ne faut pas qu'exceller au billard.
It's about becoming someone.
Il faut devenir un peu différent.
La leçon de Paul Newman à Tom Cruise dans La couleur de l'argent de Martin Scorsese, une leçon qui pourrait aussi s'adresser à l'acteur et à l'homme Cruise. Tu n'atteindras jamais le top niveau si tu fais le frimeur. Il l'a fait le frimeur et il le fait de plus en plus, maîtrisant de bout en bout cette saga Mission Impossible, dont on découvrira le dernier volet à Cannes, on en reparlera. Vous, Pierre Charpillaud, pour ce film, vous préparez un gros dossier sur le phénomène Cruise. Qu'est-ce qui vous fascine le plus chez lui ?
Bah déjà, c'est un acteur un peu à part dans l'ensemble des acteurs américains depuis en tout cas quelques années. C'est un acteur qu'on voit pas, par exemple, aux Oscars. À aucun moment, on va penser à Tom Cruise dans la compétition pour les Oscars. Il a sa filmographie.
Alors qu'il aurait pu pour Magnolia, pour d'autres films.
Il aurait pu par le passé. Il pourra peut-être aussi pour le futur, puisque là, il prépare un espèce de retour avec Iñárritu vers un cinéma plus auteur. On se souvient qu'Iñárritu a donné son premier Oscar à Leonardo DiCaprio. Donc peut-être pour Tom Cruise plus tard. On ne sait pas encore, mais en tout cas, il s'est construit lui-même sa propre filmographie. Il est producteur de la plupart de ses films. Il est très exigeant dans le choix des films qu'il décide. Donc il a ce côté très très dans la maîtrise totale de ce qu'il souhaite faire. Et quelque part, on cherchait des points communs avec Robert De Niro. C'est aussi un grand technicien finalement.
Oui.
Pas du tout de la même technique, pas de l'acteur studio. Mais on dit souvent, il fait lui-même ses cascades. Il fait lui-même ses cascades, pas parce que c'est un casse-cou et qu'il adore se mettre en danger. Alors certes, il adore l'adrénaline, mais surtout ce qu'il adore, c'est comprendre parfaitement comment fonctionne une cascade, la maîtriser au maximum pour pouvoir vraiment la réussir pour de vrai pour le film.
Est-ce que sa filmo ressemblerait un peu à un autoportrait ? Je pense par exemple à un thème qui va dans tous ses films, c'est le thème du père absent dans sa vraie vie, et ça vraiment, ça parcourt beaucoup de ses rôles.
Il y a beaucoup de thèmes comme ça qui reviennent très régulièrement dans ses films. Effectivement, son père qui a été absent dès son plus jeune âge, qui était un père déjà violent du moment où il l'a connu, puis après qui a complètement disparu.
Il se venge dans Magnolia.
Il se venge dans Magnolia, exactement.
Il paraît qu'il a improvisé la scène sur le lit de mort de son père, c'est vrai ?
Il paraît, ouais, effectivement, qu'il a improvisé cette scène. Et en tout cas, effectivement, cette relation à son père, je pense que c'est quelque chose qu'il a un peu forgé lui-même. Faut se rappeler qu'il n'a pas forcément voulu toujours devenir acteur. Au début, il voulait devenir sportif. Il était même dans l'équipe nationale de lutte des États-Unis. Il a failli représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques de lutte, mais il s'est blessé. Et c'est parce qu'il s'est blessé qu'il a découvert un atelier théâtre dans son lycée, qu'il a découvert le théâtre et qu'il a un peu trouvé sa place. Mais il appréhende le jeu comme un sportif de haut niveau apprendrait son sport, quoi. Il a vraiment exactement ce même rapport sûrement à la technique. Et donc c'est ça, on peut trouver un peu un point commun. On parlait de Robert De Niro et son rapport de peintre. Tom Cruise, c'est plus un sportif.
Dans Mission Impossible, il dit « C'est toi qui construis ton propre destin. » C'est exactement ce qui lui correspond. Et d'ailleurs, dans son côté volonté de faire, c'est lui qui a absolument voulu jouer dans Entretien avec un vampire réalisé par Neil Jordan, 2 ans avant le premier Mission Impossible, d'ailleurs, de Palma. On écoute un extrait.
Life has no
La vie
meaning.
N'a aucun sens, n'est-ce pas?
The wine has no
Le
taste.
Vin n'a aucun goût.
The food,
les aliments te répugnent. Il semble
no
ne rester aucune raison de vivre. Je me trompe.
What if I could give it
Mais si je pouvais t'y faire reprendre un goût,
pluck out the pain.
Briser la souffrance et t'offrir une autre vie,
One you could never...
une vie que tu n'aurais jamais imaginée.
And it would be
et ce serait pour l'éternité. Et la maladie et la mort ne pourraient plus jamais t'atteindre.
Don't be afraid.
N'aie pas peur.
I'm going to give you the choice.
Je vais te donner le choix que je n'ai jamais eu.
D'ailleurs, il est souvent, on parlait des traductions, il est souvent doublé par Yvan Attal, le Tom Cruise.
Là, il a son propre doubleur depuis justement Entretien avec un vampire.
Ouais.
C'est la première fois qu'il est doublé en français par le doubleur qui travaille avec lui ou qui travaille pour lui depuis et qui continue à travailler pour lui.
Lestat et Goncruz, une figure séduisante du vampire qui exerce une fascination irrésistible sur les humains, à la fois magnétique et effrayante attraction-répulsion face au jeune Brad Pitt. Donc, je le disais, il a absolument voulu de ce rôle contre l'avis de l'auteur du livre Anne Rice. Pourquoi vous pensez qu'il s'est autant battu pour ce rôle, Pierre, cher ami ?
Déjà, Anne Rice, effectivement, n'imaginait pas du tout Tom Cruise dans ce rôle, puisqu'il faut quand même se rappeler que le personnage du roman, qui est très populaire, en tout cas aux États-Unis, mais même dans le monde entier, un personnage qu'on retrouve dans une saga de romans, Les Stats de Lioncourt, c'est un homme d'1m90, qui est blond, qui a des origines françaises, donc différentes qualités auxquelles ne correspond pas tout à fait Tom Cruise, et c'est 1m70, son origine américaine, et ses cheveux bruns. Donc voilà, sur le papier, ça correspondait pas trop, et on peut imaginer pourquoi Anne Rice était un peu sceptique à cette idée. Mais toujours, ce qui a été important pour Tom Cruise, ça a été de vraiment choisir les films dans lesquels il allait jouer pour ne pas tomber dans le piège de l'acteur qui se retrouve à jouer toujours le même emploi, toujours le même rôle. Parce qu'effectivement, c'est un acteur qu'on caste surtout parce qu'il est beau, parce qu'il est sympathique, etc., pour son physique. Et au début, il a commencé à jouer comme ça dans des teen movies.
Cocktail, etc.
Voilà, exactement. Ses premiers rôles, c'était vraiment l'archétype de l'adolescent américain. Et très vite, il a voulu se démarquer de ça en jouant, par exemple, dans Legend avec Ridley Scott, qui est un film où il n'est pas tout à fait un adolescent américain, on va dire. Plus tard, il va devenir une star avec Top Gun, et il pourrait jouer par la suite des autres films un peu dans la même genre, dans la même veine que, ouais, Top Gun, ce qu'il va faire d'ailleurs quand il fera Jour de tonnerre, c'est très proche de Top Gun. Mais juste après, il va faire La couleur de l'argent avec Scorsese pour, ouais, avoir un peu un vrai film d'auteur et pour vraiment être pas juste un acteur, mais aussi un artiste, mmh, et choisir
ses
films.
Il est magnifique et crédible, hein, dans Entretien avec un vampire. Il est pervers, il est. C'est vrai qu'il casse. Vous êtes d'accord avec cette expression, il casse son image ou pas?
Je ne sais pas s'il casse son image, parce qu'il a toujours un peu construit une image un peu différente. Et en même temps, certes, c'est un rôle différent, c'est un rôle de méchant.
Ouais.
On n'est pas habitué à des rôles de méchants, même si on avait un peu plus tard aussi chez Michael Mann. Mais on connaît plutôt pour des rôles sympathiques. Mais néanmoins, il est séducteur. Et Tom Cruise aussi, son talent, c'est qu'il séduit. Toutes les personnes qui parlent de lui disent toujours, pour cet entretien, pour ce film, on a réalisé beaucoup d'interviews avec ses proches. Et tout le monde, ouais, dit « Ah, il est tellement sympathique, il fait des selfies avec tout le monde, il est très adorable, etc. » C'est un séducteur avec les hommes comme avec les femmes, c'est,
oui,
quelque chose qui revient beaucoup et qui est au cœur d'Entretien avec un vampire. Et surtout, d'Entretien avec un vampire, il y a ce thème fascinant qu'on va retrouver dans plein de films avec Tom Cruise, c'est l'immortalité. C'est un, oui, acteur qui refuse de mourir.
Oui.
Même dans Mission Impossible, on le voit, il a 62 ans, il est encore là à faire des cascades, ouais, formidables. On se souvient dans Top Gun Maverick, quand on le voyait face à Val Kilmer, c'était fou de se dire que c'est des acteurs en fait de la même génération, alors qu'il y en a un qui semble éternel. Et, ouais, l'idée de refuser de mourir, c'est quelque chose qui revient dans plein de films. On peut penser par exemple à Vanilla Sky, dans lequel il va un peu aller vers cette entreprise un peu étrange qui lui promet la vie éternelle. Et puis il faut se rappeler quand même que la grande promesse de la scientologie...
Mais oui.
C'est la vie éternelle. Donc, il y a un lien aussi dans sa vie intime, dans sa vie privée, avec sa carrière professionnelle.
On peut parler d'homosexualité par rapport à Entretien avec un vampire ou pas, et l'histoire entre lui et Tom et Brad Pitt.
Ben bien sûr, et c'est quelque chose qui revient aussi à nouveau dans pas mal de films. Top Gun, il y a
Top Gun.
Une espèce de discours
crypto,
gay dans voilà, le film, qu'on peut voir de cette manière-là. Dans Eyes Wide Shut, il y a une scène
dans la rue, il se fait haranguer par des petits jeunes qui le traitent de faguette.
Exactement, ouais, et que certaines personnes pensent que Stanley Kubrick aurait mis ça un peu comme un clin d'œil à des références homosexuelles qu'on, ouais, pourrait porter à Tom Cruise. À nouveau, le paradoxe, c'est que dans la scientologie, il n'y a rien de plus interdit et de plus tabou que l'homosexualité. Oui. Le communisme et l'homosexualité. deux sujets qui fâchent. Donc, ça paraît étonnant. Après, c'est aussi, à nouveau, parce que c'est quelqu'un qui est dans cette séduction permanente. Et s'il s'agit de séduire des hommes, il s'agit de séduire des femmes. Il faut qu'il, ouais, soit aimé par tout le monde. Et ça, c'est vraiment au cœur du personnage Tom Cruise.
Le summum, vous l'évoquez, du film d'auteur, Cruise l'a atteint avec Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, avec sa femme de l'époque, Nicole Kidman, William Harford, médecin, mène une paisible existence familiale jusqu'au jour où sa femme Alice lui avoue avoir eu le désir de le tromper quelques mois auparavant.
Look, women don't. They basically just don't think like that.
Millions of years of evolution, right? Men have to stick it in every place they can, but for women, women it is just about security and commitment and whatever the fuck else.
A little oversimplified, Alice, but yes, something like that.
If you men only knew.
I'll tell you what I do know is you got a little stoned tonight, you've been trying to pick a fight with me, and now you're trying to make me jealous.
You've never been jealous about me, have you?
No, I haven't.
And why haven't you ever been jealous about me?
Well, I don't know, Alice. Maybe because you're my wife, and I know you would never be unfaithful to me.
You are very, very sure of yourself.
Do you think that's funny?
Ce rire de Nicole Kidman qui va tout déclencher, en fait, chez cet homme, sa confusion mentale. Le casting est tellement... C'est le grand atout du film, donc ce couple avec lequel Kubrick va jouer. Un film comme un document sur eux deux, Pierre Charpillon.
Oui, c'est très pervers quand même comme film. Hein, parce,
ouais,
que c'est à ce moment-là, Tom Cruise et Nicole Kidman sont en couple depuis quelques temps, non seulement, et en plus, leur couple bat un peu de l'aile, sur fond d'un conflit lié à l'engagement dans la scientologie de Tom Cruise, qui est de plus en plus croissant et qui fait peur à Nicole Kidman. Et Nicole Kidman l'incite un peu à quitter la scientologie. D'ailleurs, à ce moment-là, pour tourner dans ce film, vous savez, les tournages de Kubrick sont très très longs, ouais, comme tout le monde sait. Donc, ils sont partis tous les deux à Londres, où vivait Kubrick et où il préparait le film et où le film sera tourné pendant de très très longs mois.
Ouais,
et ça, du côté de la Scientologie, ça a été un peu un problème, parce que on voyait Tom Cruise partir très très loin des institutions de la Scientologie avec Nicole Kidman qui commençait un peu à le tourner à l'envers en direction de je vais quitter l'organisation. Donc on avait un peu peur, et David Miscavige, qui est le patron de la Scientologie et le grand ami de Tom Cruise, a envoyé sur place des auditeurs de la Scientologie, qui sont ces personnes chargées un peu de remettre sur le droit chemin les brebis galeuses, pour le convaincre effectivement de rester dans la Scientologie et d'identifier clairement Nicole Kidman comme personne suppressive, pour utiliser le terme qu'on emploie en Scientologie, c'est-à-dire une personne qui serait nocive pour lui. D'autant plus que Nicole Kidman est fille de psychologue, son père était psychologue, et on déteste la psychologie en Scientologie, c'est vraiment l'inverse de la doctrine. Donc c'est à ce moment-là aussi que le couple se sépare. Donc le couple se sépare en même temps qu'ils sont en train de tourner cette histoire de désir.
Mais pourquoi il a fait ce film en fait ? Est-ce que le cinéma irait au-dessus de la Scientologie du couple ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il a fait ce film pour être dans un Kubrick ?
Ah, je pense certainement. Effectivement, ça a toujours été important pour lui, en tout cas. En tout cas, à ce moment-là de sa carrière, je ne sais pas si c'est toujours vrai par la suite, peut-être en train de le redevenir, mais ça a été toujours important pour lui d'être auprès de grands acteurs pour ne pas sombrer dans l'acteur qui fait que des films d'action, qui fait que des blockbusters, etc. Sans pour autant, et ça a été toujours vraiment le talent de Tom Cruise, sans pour autant sacrifier les blockbusters. Il en a fait, il a continué à en faire tout au long de sa carrière, mais il a toujours cherché un peu ce juste milieu entre un pur cinéma d'auteur et un cinéma beaucoup plus grand public, beaucoup plus spectaculaire.
Sur ce film, on signale un super bouquin qui s'appelle Le dernier rêve de Stanley Kubrick, écrit par
Axel
Cadieu, et publié chez Capricci. À 63, même Tom Cruise présente cette année à Cannes le dernier épisode de Mission Impossible, The Final Reckoning. J'ai peur maintenant. Réalisé par Christopher McQuarrie. La fin d'une saga qui a duré 31 ans, qui a rapporté 3 milliards 500 millions de dollars de recettes, qui a commencé comme une série télé, qui en a fait une franchise, qui l'a commencé avec De Palma. Un défi jeté à la mort, vous le disiez, une façon d'enterrer James Bond aussi. Ethan Hunt, seul contre tous. Le destin du monde repose sur ses épaules. On peut dire que Cruise dirige et les réalisateurs exécutent. Pierre Chapiot.
Plus ou moins, en tout cas, c'est depuis le premier Tom Cruise, c'est lui qui produit. Au début, avec son agent Paula Wagner, avec la société de production Cruise Wagner, et maintenant Tom Cruise tout seul, TC Production, puis c'est séparé de Paula Wagner. Et effectivement, c'est lui qui a en quelque sorte le dernier mot sur le film. Il s'entoure de réalisateurs dont il est très proche. Chris McQuarrie, il a fait beaucoup de films avec lui, tant Jack Reacher par exemple notamment.
J'adore le premier.
Ressemble un peu le premier exactement. Ouais. Et Chris McQuarrie a d'abord été scénariste, puis après réalisateur. Pour le dossier qu'on a fait pour ce film, on s'est entretenu avec pas mal d'acteurs, et ça arrive par exemple souvent qu'on nous dise que sur le plateau, à l'occasion d'une réplique, Tom Cruise dise « Ah non, faudrait pas que tu dises ça, faudrait plutôt que tu dises ça autrement, ou bah cette réplique c'est plutôt toi qui vas la faire plutôt que moi, etc. » Donc changer le scénario sur place pendant le tournage, Tom Cruise est capable de le faire, même dans un film qu'il ne réalise pas, puisque c'est un film dont il n'est que acteur et producteur. Donc ça c'est assez fascinant.
On va écouter la bande-annonce du nouveau.
Lives are not defined by any one action. Our lives are the sum of our choices.
Everything you were, everything you've done, has come to this.
When the need for certainty is absolute, and the odds are deemed impossible, the mission falls to him.
Should he choose to accept?
Voilà le dernier épisode de Mission Impossible qu'on découvrira à Cannes, et on est très heureux de savoir Pierre Charpillos qui va tourner avec Iñárritu. Après, je me demandais ce qu'il allait faire. Mais c'est compliqué, il va se réinventer encore.
Et il a d'autres projets avec Chris McQuarrie, donc L'action, on n'est jamais loin.
D'accord. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous, Pierre Champillaud et Jordan Minzer, qui va annoncer le disque à suivre.
Oui, c'est un groupe, grand groupe anglais, The Cure, avec All I Ever Am.
On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
On va commencer par un premier film, Laurent, Les Arènes de Camille Perton. À tout juste 18 ans, Brahim, jeune footballeur prometteur, est représenté par son agent et cousin Mehdi. Il s'apprête à réaliser son rêve, signer son premier contrat professionnel à Lyon. Mais l'arrivée d'un puissant agent étranger rebat les cartes. Comment les joueurs deviennent les produits sur un marché manichéen, le gentil cousin et l'agent cynique, des clichés foot et fric, mais vrai en fait. Et l'ombre d'un autre film qu'on avait bien aimé, c'est Mercato.
Oui, c'est vrai, c'est le second film sur le récent sur l'univers du football. Oui. Et il était temps que la fiction française s'intéresse à ce milieu, à tous les sens du terme, j'insiste sur milieu, proche donc de la mafia. Pour son premier long métrage, Camille Perton ne choisit donc pas la facilité en peignant cet univers sous des facettes à la fois bureaucratiques d'un côté et puis d'ultra-luxe de l'autre. On passe ainsi de couloirs de bureau à ceux d'un yacht et c'est très très révélateur des paradoxes, des ambiguïtés et des mystères insondables de ce milieu. Film de mafieux, film noir, film intimiste. La réalisatrice tricote tout ça avec un indéniable brio et une belle réflexion sur le désir de jouer, le désir de l'autre, le désir de succès, etc.
Elle s'appelle Camille Perton.
Et c'est Les Arènes, Camille Perton, absolument.
L'effacement, Karim Moussaoui, Reda vit chez ses parents dans un quartier bourgeois d'Alger. Il occupe un poste dans la plus grande entreprise d'hydrocarbures du pays, dirigée par son père, un homme froid et autoritaire. C'est un film à l'atmosphère étouffante, étrange, et des moments dans le genre fantastique. Et cette idée, eh bien, d'accepter pour le spectateur de ne pas tout comprendre.
Ah, écoutez, oui, on comprend quand même pas mal de choses sur l'Algérie actuelle. Ouais. C'est le second film de Karim Moussaoui qui avait fait En attendant les hirondelles. Magnifique, magnifique film. Et là, quand même, son personnage principal, il est tout simplement confronté au patriarcat, à l'armée, à la famille, à l'état autoritaire et même à l'entreprise. Donc c'est cette façon de décrire l'Algérie actuelle qui n'est guère reluisante, avec différentes réponses faites par des personnages secondaires, la soumission de l'un, l'exil de l'autre, le le terrorisme choisi par un troisième, ou bien la violence criminelle du personnage principal. C'est l'intelligence absolue du film, et c'est aussi l'intelligence de choisir un pari esthétique réussi, je trouve, pour raconter un tel climat et un tel pays.
Les Enfants Rouges, deuxième film de Lofty Achour, alors qu'ils font paître leur troupeau dans la montagne, deux ados sont attaqués, Nizar, 16 ans, est tué, tandis que Ashraf, 14 ans, doit rapporter un message à sa famille. Et quel message s'est inspiré d'une histoire vraie? Le message, ben, c'est la tête de son cousin.
Oui, alors après l'Algérie à l'instant, la Tunisie maintenant, le Maghreb nous donne des nouvelles, c'est pas forcément des nouvelles très reluisantes. Hein, franchement, là, effectivement, l'interrogation principale du film étant peut-être comment filmer l'horreur sans la filmer frontalement, c'est-à-dire sans la filmer comme le font les chaînes d'infos en continu, ben, peut-être justement en donnant en quelque sorte la parole ou en tous les cas l'accès à la psychologie de ce petit garçon de 13 ans, de ce cousin qui vit l'horreur et qui l'essaye de la vivre, notamment en se réfugiant dans ses rêves. Et c'est ce refuge, évidemment, à l'opposé de l'horreur du réel, qui fait tout le prix, le poids et l'intérêt du film.
Les femmes et les enfants d'abord, de Pierre Dugofson, 10 courts-métrages tournés entre 2004 et 2024, qui explorent les enjeux sociaux et écologiques de l'époque avec un regard moqueur et ludique.
Oui, alors la datation que vous indiquez n'est pas innocente, ça fait quand même beaucoup de temps qui est passé. Alors on évoque le réchauffement climatique, la pauvreté, la mondialisation, tout ça avec un tropisme aussi sur les mères et leur rapport avec les enfants. C'est par définition inégal, il y a 10 courts-métrages, donc c'est inégal, ça c'est posé sur le papier. Mais malheureusement, c'est la plupart du temps assez maladroit, ça se veut burlesque et on rit assez peu. Bref, pas certain qu'il fallait remettre tout ça ensemble et faire les fonds de tiroir.
Le retour de Margaret von Trotta, la cinéaste allemande, dans Ingeborg Bachmann, le portrait d'une figure majeure de la littérature autrichienne mais méconnue en France, la poétesse Ingeborg Bachmann, au sommet de sa carrière lorsqu'elle rencontre le célèbre dramaturge Max Fritsch.
Oui, j'avoue mon inculture totale, je ne connaissais rien de cette écrivaine. J'ai bigrement maintenant envie de lire ses œuvres après avoir découvert le nouveau film de Margaret von Trotta. On sait qu'elle s'est presque spécialisée dans les portraits féminins et
Anna Arendt, et Rosa
exactement
Luxembourg.
Et pas n'importe qui, vous le dites effectivement. Cette femme est morte Bachmann à l'âge de 47 ans dans des conditions assez mystérieuses. Von Trotta a l'immense avantage et qualité de ne pas faire un biopic parce qu'elle choisit juste 6 ans d'une vie avec notamment après la séparation avec Fritsch une tentation du désert qui est très bien filmée. Et puis au milieu du film il y a Vicky Krieps, ouais, qui est décidément plus que parfaite, plus que lumineuse, plus qu'incandescente, et elle incarne cette femme avec énormément de talent, d'autant plus que c'est une sorte d'égoïste flamboyante avec laquelle on n'est pas forcément ni d'accord ni en empathie, mais justement Vicky Krieps le fait formidablement. Et on signale
de von Trotta sinon rien, parce qu'une reprise qui s'appelle L'Ami
avec Angela Winkler et Anna Chigoula, c'est dire si le casting vaut le coup. Ce sont deux femmes opposées mais que le cinéma de von Trotta et son talent va réunir.
Rumeur Nuit Blanche au sommet, un trio de cinéastes, Guy Madin, Eva Johnson et Galen Johnson, réunis dans un château en Allemagne pour leur sommet annuel. Les dirigeants des pays du G7 s'installent en bordure d'une forêt pour préparer leur déclaration. À la nuit tombée, le groupe constate que le personnel qui les entourait a disparu. Comédie noire, survival, film de zombies, mais surtout satire politique, celle des grands, pas si grands de ce monde.
Oui, alors en général, on aime beaucoup quand même le cinéma quasi expérimental de Madin. Là, je trouve qu'il semble flotter entre satire politique, le film démarre par un G7, et puis une fable fantastique un peu à la Mandico, et le film semble vraiment hésiter entre tout ça. Il y a des moments assez drôles comme l'intelligence artificielle représentée comme une énorme chose qui apparaît comme ça, donc qui est à côté de nous. Mais l'ensemble est mal ficelé, parfois lourd, parfois incohérent. On reste, je trouve, la plupart du temps à l'opposé, ou en tout cas à l'extérieur de ce rêve éveillé.
C'est Kate Blanchett qui joue Angela Merkel.
Mais oui.
C'est bien fou,
sûr,
ça.
Absolument.
Et Denis Ménochet qui joue le président français. Ça serait Hollande ou bien?
Je n'osais le dire, voilà, bon.
Soudan, souviens-toi de In Medeb. Après 30 ans de dictature, le portrait d'une jeunesse soudanaise qui, par ses mots, poèmes et créations, défie la répression militaire et lutte pour ses rêves de démocratie. Un film sur leur persévérance et l'espoir de cette jeunesse, Laurent.
Oui, c'est un magnifique documentaire qui dure 1h16, donc il est court, parce que il est court aussi parce qu'il y a peu d'images de ce Soudan en proie à une guerre civile abominable après avoir été 30 ans sous un régime autoritaire islamiste. Et la réalisatrice convoque les images, le cinéma, la parole beaucoup pour essayer effectivement de donner le plus possible de place, notamment à cette jeunesse en souffrance.
Avant les cadeaux pour nos amis, un festival, Laurent.
Ben oui, le festival Silence, ça s'impose au cinéma. Du 21 au 25 mai, c'est formidable. 2025, 21-25 mai 2025, évidemment, à Rosny-sous-Bois. Et il y a notamment, c'est le festival Silence qui donne beaucoup, beaucoup d'intérêt à des ciné-concerts. Et notamment à La Nuit des Morts-Vivants.
Oui, de Romero.
Et absolument, revisité par Gunwood. Et Le Roi et l'Oiseau, sublimé par Chapelier Fou, qui est un groupe que j'adore. Tout ça, c'est durant ce festival qui est très, très, très intéressant parce que, justement, il donne la parole aux images et à la musique. Il y a aussi un autre petit festival qui commence.
Sur les palmiers, on y sera en direct
voilà,
la semaine prochaine.
Voilà, il semble vous êtes calme. On vous y retrouve, Jordan.
Oui,
bien sûr.
Et Pierre aussi.
Et Pierre aussi. Tout le monde s'y retrouve, oui, enfin bref.
Donc, les cadeaux.
Les cadeaux. Alors, un DVD, le même, d'abord pour vous deux. On aurait pu parler de lui aussi quand on parle de Niro ou de Tom Cruise pour les grandes figures hollywoodiennes. Clint Eastwood, son film Pale Rider. J'ai mal dit.
Pour moi, c'est un des meilleurs. C'est une tragédie shakespearienne, non, Jordan?
C'est chez Warner. C'est un très beau coffret en 4K Ultra. Il y a d'autres films de Scorsese qui paraissent en même temps chez Warner. Merci. Allez-y. Pour vous, Pierre Charpioz, un petit Tom Cruise, bien sûr, né un 4 juillet d'Oliver Stone. Très beau coffret, là aussi, édition collector. Vous allez voir, c'est chez l'Atelier d'Images. Et ça vaut vraiment le coup.
Là, vous parliez de son travail. Il y a eu un travail gigantesque sur ce film.
Puis c'est fou d'avoir Tom Cruise, effectivement, en chaise roulante.
Oui.
Bah oui, étonnant. C'est pas tous les jours. Cascade ratée. Le dernier DVD, c'est pour vous, Jordan Mizer. Vous avez vu ce film, Ifus? Je sais pas si on dit Ifus.
Ah oui, oui, sur le baseball.
Le baseball.
Ça n'a pas marché en France parce que vous ne comprenez pas le baseball.
On a du mal avec le baseball. Mais c'est chez Capucci.
Vous comprenez le baseball.
C'est chez Capucci. Et c'est un film formidablement mélancolique et crépusculaire.
J'avais vu à Cannes l'année dernière.
Magnifique film, voyez-le.
En plus d'être des brillants journalistes, tous les deux, vous êtes des auteurs. Pierre Charpioz, on rappelle le titre de votre livre, Audrey Hepburn, une star pour tous, chez Capricci, alors que vous en préparez plein d'autres, des livres.
Plusieurs, oui.
Plusieurs.
Et le Hepburn est très joli, vraiment.
Et Jordan, on peut citer quoi chez Synecdoque?
Des livres sur James Gray, Dean Tavalaris et Darius Conji, livres d'interview.
Quelques grands.
Très beau livre. En français et en anglais.
C'est ça.
Voilà.
Comme moi.
Merci vraiment à tous les deux, Pierre Charpioz, Jordan Mizer, de nous avoir raconté de façon si subtile ces deux grandes figures du cinéma américain que sont Robert De Niro et Tom Cruise. Merci à notre équipe, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Louis Tempero à la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Nous vous le disions, la semaine prochaine, nous serons en direct du Palais des Festivals de Cannes. Au revoir.